Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Dans 30 minutes, comme tous les matins, nous lancerons un débat et nous parlerons tout à l'heure du Mali où la consultation nationale organisée par les autorités de transition s'est terminée mardi avec toute une série de recommandations qui vont permettre aux militaires de s'éterniser au pouvoir puisque les participants proposent de prolonger la transition jusqu'à la pacification du pays. Donc, pas d'élection tant que la paix ne sera pas de retour. Il recommande également de nommer le chef de la junte, le général Goïta, président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. Et pour assainir la scène politique, il plaide pour la dissolution de tous les partis. Alors êtes-vous surpris par ces annonces? Quelle image vous renvoie la transition malienne? Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Vos commentaires comme tous les matins sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns. J'en lirai même plusieurs ce matin. Du Mali. Vous êtes quelques-uns à nous avoir écrit justement de Bamako, de Ségou, de Tombouctou. Je me ferai bien évidemment votre porte-parole. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions à la rédaction. On va commencer en parlant cyclisme. On a des questions sur le Tour du Bénin. Bonjour Delphin.
Bonjour Juan, bonjour toute l'équipe.
Merci de votre fidélité, Delphin, comme tous les Béninois. Vous suivez ce tour qui, cette année, n'est pas tout à fait comme les autres.
Exactement. Le Tour du Bénin se déroule dans un contexte d'insécurité, puisqu'il a débuté 10 jours après les attaques terroristes dans le nord de mon pays. Les autorités ont peu communiqué à ce sujet. Alors, l'itinéraire de cette course a-t-il été adapté pour faire face à l'insécurité? Quelles sont les mesures mises en place pour garantir la sécurité des cyclistes et du public?
Ouais, les récentes attaques revendiquées par le GNIM ont fait 54 morts parmi les militaires béninois. Jamais le pays n'avait connu une opération terroriste aussi meurtrière. On va retrouver sur la route du Tour l'envoyé spécial de RFI. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes quelque part entre Boïcon et Atiémé, quatrième étape de ce Tour international du Bénin qui a effectivement démarré lundi dans un contexte sécuritaire, il est vrai, difficile.
Ah, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, oui, effectivement, un contexte sécuritaire. Le pays est marqué quand même hein, par ces 54 militaires tués dans deux différents camps. Et c'est clair que c'était un petit peu dans les têtes samedi lors du transfert entre Cotonou et Parakou, où le peloton a logé les trois premières nuits pour le départ de ce tour. On est monté. Alors la réponse à la question, elle est très claire. Non. L'itinéraire n'a pas été modifié. On est bien parti de Niki, comme c'était prévu, donc encore un peu plus au nord, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres plus au sud de là où se sont déroulées les attaques. On était en pays Bariba, on a été très très bien reçus à Niki d'ailleurs. L'itinéraire n'a pas été modifié. Et la sécurité, en revanche, a été renforcée. Elle a toujours été présente ces dernières années sur le Tour du Bénin, mais elle a été renforcée. On a 35 militaires armés jusqu'aux dents avec nous qui encadrent la course devant, derrière. Il y a 6 motards. Et pour l'étape Niki Parakou, il y avait même un hélicoptère armé, je peux vous le dire, qui survolait la course pendant toute la durée de l'étape. Après, à partir du moment où on a quitté Parakou et où, là, par exemple, on est dans le centre-sud, oui. On se dirige aujourd'hui vers la frontière togolaise. Là, il y a beaucoup moins, a priori, de danger, mais les militaires sont là et le tour est encadré. Les hôtels sont gardés et, a priori, les déplacements sont, on va dire, relativement contrôlés.
Et dans quel état d'esprit sont les 250 coureurs?
Alors, ils ne sont pas 250, les coureurs, ils sont 80, Juan.
250, la caravane, c'est, effectivement, oui, la caravane.
La caravane, c'est 250 personnes, parce que vous le savez, il y a une énorme intendance, parce que c'est un tour très sérieux, très bien organisé, il faut le signaler, hein, absolument. Les coureurs, moi, j'ai beaucoup discuté avec eux samedi sur la route, justement, pour ce transfert où on partait un peu dans l'inconnu. Je n'ai pas senti d'inquiétude. Ils étaient rassurés par la présence des militaires. La seule chose, et ça, je peux vous le raconter, parce que maintenant, c'est vérifié, c'est sûr, en discutant avec un coureur togolais, il m'a dit, mais vous étiez sur le Tour du Mali il y a 15 jours. Je lui dis, ah non, je n'étais pas sur le Tour du Mali. Il me dit, mais vous savez qu'on a été attaqué? Alors, oui. Je lui ai répondu, mais non, je ne sais pas. Pourquoi les médias n'en ont pas parlé? Et puis là, j'ai senti que ses camarades autour de lui lui demandaient de se taire. Et enquête menée et vérifiée, info vérifiée, le Tour du Mali, il y a 15 jours, a bien subi une attaque lors de la deuxième étape entre Sikasso et Niema. La course a été neutralisée pendant 2 heures. Il y a eu un blackout total de la part des autorités maliennes et même du peloton. On parle d'un blessé, mais oui, il y avait un vrai danger. Mais le Mali, c'est le Mali et le Bénin, heureusement, n'est pas encore dans la situation du Mali. Mais c'est vrai que pour ces coureurs togolais, on sentait bien qu'il y avait une petite appréhension après ce qu'ils avaient vécu, même si les coureurs ont été tenus un peu à l'écart de cette attaque. Mais voilà, c'était bien présent quand même dans les têtes. Aujourd'hui, tout va bien, les sourires sont sur les visages. Voilà, même les Béninois disent courir pour la mémoire de leurs militaires tués.
Effectivement, on a pu en entendre d'ailleurs quelques-uns à votre micro. Olivier Pron, avant de vous libérer, car la quatrième étape a déjà commencé il y a une quarantaine de minutes, un mot tout de même sur l'importance qu'a pris le Tour du Bénin. Il est inscrit depuis maintenant 3 ans au calendrier de l'Union Cycliste Internationale.
Eh oui, c'est le seul dans la sous-région, en tout cas en Afrique de l'Ouest, c'est désormais le seul. Juan, il y a 15 ou 20 ans, quand vous et moi on était bien plus jeunes, on se souvient de Philippe Zygraf sur le Tour du Sénégal, reconnu par l'UCI, il y avait même une équipe RFI qui courait avec Farid Achache dedans. On se souvient bien sûr du Tour du Faso, qui l'année dernière a perdu son label pour diverses raisons et qui est suspendu pour 5 ans. Le Tour du Mali, il y a encore un an, 2 ans.
Et celui de la Côte d'Ivoire également.
Celui de la Côte d'Ivoire, j'allais le citer. Mais évidemment, Juan, vous êtes un spécialiste de la petite reine, chacun le sait. Eh bien, voilà, tous ces tours ne sont plus aujourd'hui reconnus par l'UCI, par défaut d'organisation, par manque de moyens. Et le Bénin, eh bien, est le porte-étendard dans la région. Et c'est vrai qu'il est fait avec sérieux. Et c'est important parce que, vous savez, un tour reconnu par l'UCI pour les coureurs, ça donne des points au classement mondial, des points au classement africain. Ça leur permet donc de se qualifier pour les grandes compétitions. C'est donc majeur d'avoir des tours reconnus par l'UCI. Et donc, pour cela, forcément, il faut mettre un peu la main à la poche. C'est des conditions d'organisation qui sont très strictes. Mais c'est nécessaire si on veut voir le cyclisme africain progresser. Il faut des tours UCI.
Olivier
et le Bénin, aujourd'hui, est le porte-étendard.
Merci infiniment. Bonne journée. Bon courage donc pour cette quatrième étape, même si vous la suivez, vous, en voiture. L'arrivée du Tour, samedi, à Cotonou. Delphin, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci et à très bientôt.
Eh bien, n'hésitez pas. On est ouvert tous les matins à 8h10, temps universel, du lundi au vendredi. Il est 10h18 à Paris. On repasse au standard avec d'autres questions. Cernot nous suit à Marois, c'est au Cameroun. Bonjour Cernot.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à tous et bonne fête.
Oui, bon 1er mai à vous. On travaille, mais on travaille dans la bonne humeur. On est content d'être avec vous, de dialoguer avec vous en direct en cette journée fériée. Cernot, vous avez des questions concernant un décret, un de plus j'ai envie de dire, signé par Donald Trump. Et comme c'est souvent le cas, ce décret fait polémique.
Effectivement, Donald Trump a décidé l'autorisation d'extraction minière dans les eaux internationales. À cela, j'ai 2 questions. Ma première question est de savoir, est-ce que la mobilisation internationale menée par la France peut-elle constituer un véritable rempart face à ces velléités ?
Alors, pour vous répondre, qui de mieux placé à RFI que le chef du service environnement climat ? Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Soyons clairs, en signant ce décret, Donald Trump fait clairement un bras d'honneur à la loi internationale, aux règles internationales.
Oui, parce qu'il y a une convention des Nations Unies sur le droit de la haute mer, convention dont les États-Unis sont signataires, mais qu'ils n'ont pas ratifiée. Signataires, ça veut dire qu'ils ne sont pas tenus d'en respecter les engagements, ils ne sont pas tenus d'en respecter les obligations. Les États-Unis ne prennent pas part aux discussions, ils sont simplement observateurs dans les instances dédiées, mais ils l'ont quand même signé, c'est-à-dire qu'ils ont obligé d'en respecter du moins la philosophie, les principes généraux, et ce qui veut dire que là on est en zone internationale, en haute mer, et c'est reconnu par les textes internationaux comme un patrimoine commun de l'humanité dont on ne peut s'approprier les ressources, et le droit coutumier fait que les États-Unis, et ils l'ont toujours fait jusqu'à présent, doivent respecter ce principe général. On part a priori dans la direction inverse. À voir jusqu'où le bras de fer peut aller, mais on est avec l'administration Trump.
En tout cas, il y a une mobilisation internationale pour faire en sorte que Trump n'aille pas jusqu'au bout.
Alors, qui a commencé avant, puisque ce sont des discussions qui ont lieu, du coup, dans l'instance onusienne dédiée, la IFM, l'Autorité internationale des fonds marins, c'est des discussions qui ont lieu depuis 5-6 ans, puisqu'une entreprise canadienne avait essayé d'y aller. On est, là, on parle en particulier d'une zone en plein milieu du Pacifique, la zone de Clarion-Clipperton. On est à 8000 mètres de fond. Hein. C'est très compliqué. On l'a jamais fait avant pour aller chercher ce qu'on appelle des nodules polymétalliques. Il faut imaginer des petites boules de la taille d'une pomme de terre.
Des galets.
Voilà, qui contiennent du manganèse, du cobalt, du cuivre, du nickel.
Des minéraux très recherchés, et notamment par Trump.
Nous dit-on, pour la transition, notamment la transition énergétique, alors qu'on en trouve beaucoup sur la Terre également. Mmh. On n'est pas obligé d'aller chercher ça au fond de l'eau. Bref, des négociations depuis des années au sein de la IFM, avec notamment un mouvement pour un moratoire contre cette pratique qui est donc encore inédite, avec lancé à l'initiative de la France notamment. Il y a une trentaine de pays qui sont un peu sur cette ligne. Après, bon, bah voilà, on est avec, comme je le disais, avec l'administration Trump. C'est nous les plus forts. Si on veut y aller, on ira. On est un peu sur cette ligne-là. Il y a une première, donc cette entreprise canadienne a fait sa demande d'autorisation pour aller exploiter ces minerais auprès de l'administration Trump il y a deux jours. Elle a six mois pour répondre. Ironie, triste ironie de l'histoire, c'est l'Agence de protection des océans qui est chargée de lui répondre aux États-Unis. Dans l'état actuel des choses, on ne voit pas pourquoi ils refuseraient. Et donc, il faudra voir jusqu'où le bras de fer ira et si effectivement ils enverront des bateaux en zone internationale.
Cerno, quelle est votre deuxième question ?
Quelles conséquences sur l'écosystème marin si les fonds marins internationaux finissent par être exploités ?
Oui, on a entendu ces derniers jours, Simon Rosé, de nombreuses organisations de défense de l'environnement s'opposer justement à ce projet. Elles s'inquiètent les dégâts.
Oui, bah comme je le disais, le mouvement contre cette pratique, il est ancien parce que c'est assez peu étudié. Comme je le disais, on est à 4-6 000 mètres, 8 000 mètres de fond par endroit, dans des zones qui sont encore relativement préservées des activités humaines, qu'on n'a pas trop cassées pour l'instant, et qui sont très dures d'accès, donc également assez mal étudiées. Donc les scientifiques déjà appellent pour un moratoire vraiment là-dessus. Laissez-nous le temps d'étudier, de voir ce qui va se passer. On se doute que ce ne sera pas sans conséquence. Puisqu'une extraction minière, c'est une activité qui est lourde, avec des gros robots qu'on descend au fond, qui font du bruit, qui soulèvent des sédiments. Il y a toute la colonne d'eau au-dessus jusqu'au bateau, puisqu'il y a un bateau avec des tuyaux qui sont reliés, il y a des sédiments qui tombent, il y a des liquides qui sont injectés. Donc tout ça a des conséquences, il y a le bruit. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs britanniques il y a un an sur une zone qu'on a été explorée il y a 44 ans. Justement pour voir un peu ce qui se trouvait au fond. 44 ans après, les dégâts sont toujours là et les gros animaux ne sont toujours pas revenus. Donc il y aura des conséquences en termes de biodiversité, il y aura des conséquences climatiques également, puisqu'il y a beaucoup de carbone qui est enterré dans ces zones-là. Aller brasser tout ça va relâcher tout ça, en tout cas ça fait partie des craintes.
C'est toujours passionnant de vous écouter. Merci Simon Rosé. Cerno, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Effectivement, et je profite pour envoyer un coucou à Emma Aziza, l'hydrologue française.
Ah, très bien.
Bonjour Emma.
Bonjour Emma. Merci Cerno, bonne journée à Marois, Simon Rosé, à très vite, chef du service environnement climat de RFI, 10h23 à Paris, 8h23 en temps universel. Stéphane Genest, journaliste au service économie de RFI, s'installe. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu.
Merci à vous.
On vous a écouté un peu plus tôt dans la matinée puisque vous présentez tous les jours la chronique Aujourd'hui l'écho. On a des questions concernant le TGV, le train à grande vitesse sur le continent africain. Haruna, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI Appel sur l'actualité.
À Dakar au Sénégal, on vous écoute.
Merci, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête du travail à tout le personnel de RFI et merci de nous avoir fait vivre l'actualité au jour le jour.
Écoutez, on est là pour ça, c'est un plaisir. Merci de vos encouragements et bonne fête à vous également, Haruna.
Voilà, Juan, le Maroc compte étendre son réseau de trains à grande vitesse. Et j'ai entendu d'ailleurs sur RFI que d'autres pays africains ont lancé des projets de lignes ferroviaires à grande vitesse. Où en sont les travaux ?
Ah, où en sont les travaux ? C'est vous-même, Stéphane Genest, qui avait dit que plusieurs pays du continent africain voulaient s'inspirer du Maroc. Il y a des projets qui sont déjà en cours.
Oui, c'est vrai, pour le moment, aucun train par ailleurs ne roule à 320 km/h sur le continent africain, ailleurs qu'au Maroc. Le Maroc est pionnier sur la grande vitesse ferroviaire. Alors, vous avez raison, Haruna, il y a d'autres pays qui ont ce projet de faire du train à grande vitesse. On va en citer trois, par exemple, l'Égypte, avec un projet de 2000 km, c'est le plus avancé du continent. Il est actuellement en construction avec trois grandes lignes qui permettent de relier les grandes villes, les ports, les zones industrielles avec des trains qui pourraient rouler à 250-300 km/h. Alors, donc on parle de très grande vitesse. Il y a aussi le Nigeria. Lui, il est déjà doté d'un train, là, à moyenne vitesse, disons 150 km/h, entre Kaduna et Abuja, une ligne de 200 km qui est en service depuis maintenant pratiquement 10 ans, depuis 2016. Une ligne qui va être prolongée prochainement, un peu plus au nord, vers Kano avec des financements qui sont chinois. Et puis le dernier exemple qu'on peut citer, c'est l'Afrique du Sud qui a ce projet-là. Le pays est en pleine restructuration. Le réseau aujourd'hui, on peut le dire, il est très dégradé. Un tiers des lignes qui existent fonctionnent normalement. Et il y a un plan des autorités et de la compagnie nationale ferroviaire, c'est de faire un réseau interurbain entre les grandes villes à très grande vitesse. Mais le projet, c'est le moins abouti finalement du continent, car si l'objectif c'est d'intégrer le train à grande vitesse dans une réforme plus large, l'ambition, on va être très concret, elle peine aujourd'hui à l'être.
En tout cas, aujourd'hui, le leader incontestable,
c'est le Maroc.
C'est le Maroc concernant les lignes grande vitesse avec des travaux qui sont en cours. Coup d'envoi d'ailleurs donné par le roi du Maroc en personne il y a quelques jours, notamment pour être en mesure d'accueillir
la Coupe du Monde
de football en 2030 que le Maroc organisera, co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Haruna, vous avez d'autres questions, allez-y.
Oui, Owen, des connexions internationales sont-elles envisagées pour faire la liaison entre les différents pays africains?
Alors, Stéphane Jolassin.
Ça, c'est une très bonne question, puisque dans un monde idéal, oui, l'interconnexion, c'est un atout pour un pays, à plus large échelle pour un continent. L'Union africaine, justement, elle avait inscrit dans son agenda 2063, avec un objectif, c'est de créer un maillage continental. Là, vous voyez, Haruna, on est vraiment en plein dedans. Mais bon, 2063, c'est dans longtemps, et un réseau de ce type qui vise à connecter les capitales et les grands centres économiques du continent, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a différents problèmes, on va en citer quelques-uns rapidement. Déjà, l'écartement des voies, vous savez, c'est la séparation entre les deux rails. C'est pas la même sur tout le continent, il y en a des dizaines de différentes, donc difficile de faire rouler un seul et même train de différents pays avec des différentes tailles de voies. L'écartement d'un mètre ou d'un mètre cinquante, bon, bah, c'est pas la même taille. Les pays n'ont pas tous la même technologie pour faire rouler ces trains, les mêmes financements, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Donc, ça aussi, c'est un souci. Et puis, la question principale, c'est l'énergie.
L'électricité.
Exactement, l'énergie. Ouais. Au Maroc, c'est des trains qui roulent avec de l'électricité. Le train nigérian qu'on évoquait sur la ligne d'Abuja, il roule au diesel. On parlait de l'Égypte également, ça va rouler principalement à l'hydrogène. Trois sources d'énergie différentes, donc pour mettre en lien tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, pour faciliter ces liaisons, c'est vrai, il faudrait harmoniser tout le réseau africain.
Alors, Haruna, on me dit que vous avez une dernière question.
Oui, Juan, quel serait l'impact pour l'économie africaine d'un réseau ferroviaire à grande vitesse?
Stéphane Jeunesse,
ça, c'est très intéressant. Oui. Alors, il n'y a pas d'études à proprement parler sur le sujet. On peut juste prendre l'exemple du Maroc, qui est un succès commercial. Il y a de plus en plus de voyageurs. L'année passée, ce sont 5,5 millions, compris ce TGV, qui s'appelle Alborac.
Oui.
C'est évidemment un gain de temps entre des grandes métropoles économiques. Là, pour l'instant, la ligne, c'est entre Tanger et Casablanca. Donc, on a vu qu'il y a eu un gain de temps.
L'idée, c'est d'aller jusqu'à Marrakech.
Exactement, le prolongement vers le sud. Mmh. Et comme on dit trivialement, le temps, c'est de l'argent. Donc, on est en plein dedans. Faire des affaires, ça attire le tourisme aussi. Et puis, ça crée un tissu industriel autour du ferroviaire et de ces lignes-là. Il y a des types d'infrastructures et de transports qui permettent de relier donc ces grands pôles économiques. Ça crée des milliers d'emplois. Le train à grande vitesse, mine de rien, ça attire des investisseurs, ça attire des entreprises, des grands groupes. Et par leur activité, ça crée de la richesse pour le pays. Et ça, ce n'est pas négligeable. Donc, il y a une question, en fait, Haruna, de compétitivité économique afin d'assurer une meilleure intégration territoriale. Car l'objectif de long terme, c'est de dynamiser, d'une part, l'économie régionale, nationale et finalement continentale.
Haruna, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
5 sur 5, Juan, merci beaucoup.
Bah voilà.
5 sur 5.
5 sur 5.
C'est parfait.
C'est parfait. C'est une excellente note, Stéphane Jeuneste.
Oui, je reviendrai.
Bonne journée à tous les deux. Haruna à Dakar et Stéphane Jeuneste au sein de la rédaction de RFI. Vous revenez demain, Stéphane?
6h15, temps universel.
Pour la chronique. Aujourd'hui, l'écho chronique à réécouter à tout moment, évidemment, sur l'application RFI Pure Radio, comme toutes les explications de mes camarades de la rédaction qui se sont succédés ce matin au micro de RFI dans ce studio pour vous répondre en direct. Je voudrais qu'on accueille juste Hubert quelques instants pour m'excuser. Hubert patiente au standard depuis maintenant 20 minutes. Bonjour Hubert.
Bonjour Mohamed, bonjour à tous.
Vous êtes...
Surtout en ce 1er mai, je dis bonne fête à tous les travailleurs et ainsi à ceux qui ont en tête de trouver un emploi, de bien garder l'espoir.
Bon, bah écoutez, merci de ces encouragements Hubert. Vous êtes au Tchad. Si vous êtes disponible, on vous rappelle demain. Vos questions seront toujours d'actualité et je sais que ce sont des questions qui intéresseront beaucoup d'auditeurs puisque la Corée du Nord a fini par reconnaître qu'elle avait bel et bien envoyé des militaires aux côtés des forces russes pour lutter contre les soldats ukrainiens. Donc on vous expliquera tout demain matin, Hubert. Merci de votre patience. Je vous souhaite à toutes et à tous de continuer à passer une belle matinée. On ne se quitte pas. On va juste marquer une pause. 10 minutes pour retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI. On revient tout de suite après pour notre débat du jour consacré aujourd'hui au Mali et à cette transition qui ne voit